Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Merci d'écouter RTL. Il est 7h46. Alba Ventura vous recevez donc aujourd'hui Hélène de Poncet, qui est vice-présidente de l'Union nationale des familles de féminicides.
Bonjour Hélène de Poncet.
Bonjour.
138 féminicides depuis le début de l'année 2019, dont votre sœur Marie-Alice, qui a vécu 15 ans avec un homme, un chauffeur de taxi dont elle était tombée amoureuse. Il l'aurait séduite par ses lectures, ses connaissances en littérature. 15 ans d'une relation toxique, jalonnée de tentatives de rupture de la part de votre sœur. Il y en a eu 5, je crois, jusqu'à la dernière, au printemps dernier, en avril. À quel moment, Hélène, avez-vous compris que cet homme était nuisible pour votre sœur ?
Alors, dès le départ, j'ai personnellement pas apprécié l'homme. J'avais pas d'a priori particulier, mais dès que ma sœur, en fait, a commencé à passer ses premiers coups de téléphone en larmes, puisqu'elle habitait aux États-Unis, on était distantes. Et
votre sœur était entre la France et les États-Unis.
Oui, elle est résidente américaine et puis elle est aussi citoyenne américaine, mais elle vivait 2 mois aux États-Unis, 1 mois en France, de façon alternée. Et dès les premiers coups de téléphone, quand elle était en larmes au téléphone, j'ai senti que c'était un homme qui lui faisait du mal et j'ai essayé de la dissuader de rester avec lui et c'était très compliqué.
Mais il lui faisait du mal, c'était quel type de violence ? Il la frappait ? C'était des
disputes ?
Non,
c'est une relation qui était une relation où la violence s'exerçait sur le côté psychologique et c'était... Il y a eu des gros mensonges qui ont été découverts par Marie-Alice, notamment sur le fait qu'il était marié, sur le fait qu'il avait des enfants, et puis combien, c'était 1, puis 2, puis 3, voilà. Et Marie-Alice, elle avait la quarantaine, je pense qu'elle était à une époque de sa vie où elle se serait projetée dans une vraie relation durable, pourquoi pas fonder une famille, et tout ça c'était très compliqué à accepter. Le fondement sur le mensonge, c'est un mauvais départ. Et ce qui était caractéristique, c'est que Marie-Alice le défendait toujours. Donc à chaque fois que moi je lui faisais la remarque qu'il lui faisait du mal, qu'il était méchant, elle trouvait des excuses. Donc son excuse typique c'était « Non, il n'est pas méchant, il a souffert quand il était petit. Il n'a pas été aimé autant qu'on a été aimé. Il n'a pas eu la chance de faire des études comme les parents nous ont poussés à faire des études. » Voilà, donc c'est un schéma qu'on
donc c'est
retrouve.
Insidieux.
Oui, c'est très insidieux.
C'est quoi ? C'est un chantage affectif qu'il a opéré envers votre sœur ?
Absolument. Donc, le chantage affectif, ça fait partie des signaux d'alarme. Maintenant que je travaille plus sur le sujet, je l'ai compris. Le chantage affectif est un signal d'alarme. Et spécialement quand c'est du chantage au suicide. Or, Marie-Alice, à plusieurs reprises, quand on lui a demandé pourquoi elle quittait pas cet homme, elle nous a toujours dit, elle l'a pas dit à tout le monde, elle l'a dit à ses plus proches, qu'elle avait peur qu'il se fasse du mal. Donc ça, pour moi, je comprends maintenant que c'était un signal extrêmement alarmant qu'on n'a pas forcément su décrypter.
Et qu'est-ce qu'il aurait fallu, en fait, pour sauver votre sœur, Hélène ? Parce qu'elle ne s'est jamais plainte auprès de la police ?
Non.
Il n'y a pas eu vraiment de violence physique ?
Alors, je découvre aujourd'hui qu'il y en a peut-être eu, mais en tout cas, il n'y a pas eu de dépôt de plainte, ça c'est certain.
Vous décrivez, vous, ce qu'on appelle l'emprise.
Oui.
Comment on fait pour empêcher qu'on aille jusqu'à la mort, jusqu'à un drame, un meurtre, puisque c'est ce qui s'est passé ? Il a tué votre sœur.
Absolument. Alors, je pense que ce qui est important, c'est que le phénomène d'emprise soit mieux connu, que les signaux d'alarme soient connus et décryptés à la fois par les victimes potentielles qui vont peut-être se reconnaître dans ce que moi je décris, le contrôle coercitif, l'isolement, le chantage, que les victimes commencent à se reconnaître et que l'entourage aussi aient cette conscience et prennent conscience de la dangerosité. Même si un homme n'a pas été violent physiquement, il peut malgré tout arriver voilà, à l'étape ultime de tuer sa compagne. Et même s'il ne la tue pas, il peut la dénigrer et l'anéantir au point qu'elle puisse elle-même commettre l'irréparable. Donc, j'ai entendu parler de suicide forcé pendant la préparation des mesures du Grenelle. Je pense que voilà, c'est une des mesures qui va prendre en compte la dimension de la violence psychologique. Mais là, on n'est plus dans le féminicide.
Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que vous attendez comme mesure de ce Grenelle, particulièrement dans le cas qui est le vôtre ?
Alors, sur le sujet des violences psychologiques, ce que j'attends, c'est surtout qu'elles soient prises en compte, reconnues, et qu'on encourage les femmes qui en sont victimes à déposer plainte. Et pour les encourager, rien de tel que de les croire quand elles viennent en parler. Et pour ça, il faut que les policiers ou le personnel psychosocial soient formés à ce type de violence qui est extrêmement spécifique.
Mais là, c'est votre engagement dans votre association, mais c'est, encore une fois, ça ne résout pas le problème de votre sœur, de Marie-Alice. Marie-Alice, il aurait fallu quoi ? Une écoute ? Le fait qu'elle en parle elle-même, la forcer à en parler, si j'ose dire ?
Alors, le fait qu'elle en parle, oui, ça aurait été important. Je pense que si elle en avait eu une meilleure conscience, elle en aurait peut-être parlé de manière plus ouverte. Après, que les gens qui l'entourent soient prêts à l'accompagner, ça aurait été un plus. Voilà, des gens formés à cette écoute spécifique puissent l'aider à s'en sortir. Une relation toxique, c'est comme de la drogue. S'en sortir, c'est très compliqué. Enfin, les personnes qui sont addictes, elles n'ont pas envie de sortir de leur addiction. C'est un accompagnement très particulier.
Hélène, l'enquête n'est toujours pas terminée. Le compagnon de votre sœur s'est enfui en Italie 15 jours après l'avoir tué, où il a été percuté par un camion et il s'agirait probablement d'un suicide. En attendant que cette enquête progresse, 9 mois après la mort de Marie-Alice, quel a été votre parcours à vous, votre parcours de sœur ? Est-ce que on vous a accompagné ? Est-ce que vous vous êtes sentie totalement démunie ?
Alors, forcément, la violence du geste fait qu'on est complètement perdu. Donc c'est un parcours de sœur, c'est un parcours de famille, parce que je reste la seule sœur, mais il y a encore ma maman. Moi, j'ai essayé de la protéger au maximum, parce que voilà, c'est quand même compliqué de perdre son enfant. On est extrêmement isolé et on est d'abord sous le choc, complètement perdu, de devoir... to deal with, de devoir prendre en charge un phénomène aussi inattendu
Vous avez juste rencontré dégoûtant. Des gens, justement. Comment vous avez réussi à vous extirper du drame ?
Alors d'abord dans l'action, parce que très vite il faut parler à la police, trouver un avocat, essayer de retrouver l'auteur. Donc d'abord dans l'action. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai été très éclaboussée par les médias et j'étais pas du tout préparée à ça, je ne m'y attendais pas. Et dans mes recherches médiatiques pour savoir ce qui se disait, pour comprendre où on en était, qu'est-ce qui se savait, qu'est-ce qui ne se savait pas, je suis arrivée sur un site qui s'appelle Féminicide par compagnon ou ex, qui est une page Facebook qui opère le décompte des féminicides au quotidien, qui lance l'alerte sur le nombre de femmes qui sont tuées par leur conjoint. Et là, je suis arrivée sur ce site parce que c'est le seul site sur lequel j'ai trouvé le nom du compagnon de ma sœur. Et j'étais très étonnée. Et très vite, les administrateurs de ce site ont engagé un dialogue avec moi et m'ont proposé de rentrer dans un groupe privé de discussion. Et je me suis retrouvée dans un groupe privé avec uniquement des personnes qui avaient vécu le même traumatisme.
Et donc c'est vous qui avez fait les démarches toute seule.
Voilà, c'est moi qui suis arrivée là un peu par hasard. Maintenant que je comprends comment ça fonctionne, c'est pas tout à fait par hasard et c'est une bonne chose. Et c'est ensuite par le biais de ce groupe Facebook que j'ai pu dialoguer avec des personnes qui avaient vécu le traumatisme. J'ai pu entendre des conseils de personnes qui connaissaient les démarches. Et puis on nous a proposé assez vite de fonder une association. Voilà, on attendait qu'il y ait des personnes qui soient volontaires et moi j'étais volontaire pour ça. Et donc avec Sandrine Bouchet, ma présidente, et puis tout un bureau. Il y a Annick Gauthier, la maman d'Hélène Kahn. Il y a Isabelle Seva Boismoreau, la cousine de Stéphanie. Il y a Céline Kahn, la sœur d'Hélène Kahn. Voilà, et Fabienne Fac aussi, qui est secrétaire adjointe. On est toutes des personnes qui avons perdu un proche.
Et des combattantes.
On est des combattantes.
C'est dans cette action que vous arrivez à faire votre deuil.
Alors, c'est compliqué de faire son deuil quand on ne parle que du mot féminicide à longueur de journée. Mais on est là, on veut aider les familles et faire du bien autour de nous à des gens qui ont subi le même traumatisme semble nous faire du bien également.
Et c'est donc l'Union nationale des familles de féminicide. Merci beaucoup, Hélène.
Merci.
La violence psychique, le dénigrement, l'emprise peuvent conduire au féminicide, vient de nous dire Hélène de Poncé, qui est donc vice-présidente de l'Union nationale des familles de féminicide. Entretien à retrouver en vidéo sur le site rtl.fr. Assureur des États.